Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1957. Et voilà le menu du jour. Grace Kelly est enceinte. La première visite à Paris de la reine Elisabeth II. Et d'ailleurs, il paraît que l'Angleterre ne sera bientôt plus une île. Et puis, Sacha Guitry qui lâche son dernier bonbon.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1957.
À la fin du mois de janvier 1957, la principauté de Monaco se prépare à un heureux événement. La princesse Grace est enceinte. Elle va accoucher d'un jour à l'autre. Ce sera le premier enfant du couple qu'elle forme avec le prince régné. Si c'est une fille, on tirera 21 coups de canon. Et si c'est un garçon, bouchez-vous les oreilles, alors ce sera 101 coups de canon. Le suspense prend fin le 23 janvier, quand 21 coups de canon résonnent sur la principauté. Et le prince régné s'adresse à ses sujets.
Monégasques et habitants de la principauté, dans une union étroite des esprits et des cœurs, vous m'avez toujours donné un affectueux témoignage de votre attachement en vous associant intimement aux événements marquants, heureux ou tristes de ma vie. À chaque occasion, votre volonté est de partager avec moi mes peines et mes joies. Cette communauté de sentiments dont j'ai toujours tant apprécié le réconfort nous unit aujourd'hui encore dans un grand bonheur. À 9h27, ce mercredi 23 janvier de l'année 1957, la princesse, mon épouse bien-aimée, a donné le jour à une princesse qui a reçu les noms de Caroline, Louise, Marguerite. La princesse et l'enfant sont en bonne santé. Avec nous, remerciez Dieu et réjouissez-vous.
Caroline. Vive la princesse Caroline.
Caroline est le premier enfant de Régnier III et de la princesse Grace. Alors que la situation se tend en Algérie et que la crise couve sur le canal de Suez, cette naissance arrive comme une bouffée d'air frais.
Ceci ne nous fasse pas oublier qu'il est des cieux tout de même plus sereins et qu'un gros événement de 7,5 livres s'est produit à Monaco, qui compte une Caroline de plus, princesse Grimaldi, depuis 9h27 ce matin. La foule est en liesse, vous vous en doutez, le prince a lancé une déclaration, les canons ont tonné, la mère a pleuré et les dépêches d'agence ont même précisé qu'il y avait une petite tache rouge minuscule sur la narine gauche de la nouvelle Caroline.
Et maintenant, on veut voir la princesse. Caroline est présentée officiellement au Monégasque début mars 1957.
À Monaco cependant, Madame Caroline a fait dans les bras de sa mère Grace Kelly son entrée dans le monde devant les 2000 citoyens monégasques qui seront peut-être un jour ses sujets.
Pour la princesse et moi-même, votre présence, monsieur le maire, mes chers amis, est une nouvelle preuve de votre inaltérable affection. Et pour cet enfant, sûrement aussi. Que Dieu protège notre pays et vous tous.
On sait tout ce que représente pour le peuple monégasque cette jeune princesse de 27 jours, l'assurance de la continuité d'un État qui le dispense de l'impôt et du service militaire. Aussi est-ce un peuple unanime qui a souhaité santé et bonheur à l'héritière des Grimaldi.
Et comble du mauvais goût, des fabricants de jouets en plastique français saisissent l'aubaine pour se faire un peu de publicité. Ils envoient à la principauté tout un tas de grelots, de colliers et autres bracelets en plastique.
Tous ces jouets sont en plastique, lavables. Mais oui, elle sait déjà comment on porte un collier spécial pour la dentition. Les jouets que vous venez de voir, les voici encore dans un grand coffret blanc, un coffret pour Caroline de Monaco. Mais le prince régné, la princesse Grace, ont demandé au comité de propagande du jouet de fabrication française de remettre ce charmant cadeau à une petite Parisienne, née le même jour que leur fille. Cette petite Parisienne, la voici, elle s'appelle Chantal Janvier. Elle a eu la bonne idée de naître en janvier, le même jour que la princesse Caroline. Un tel esprit d'à-propos méritait bien une récompense.
Caroline est la personnalité royale la plus photographiée de ce début d'année 1957. Mais en avril, elle est détrônée par la reine Elisabeth II. 4 ans après son couronnement, la reine d'Angleterre effectue son premier voyage officiel en France. Elle est évidemment accompagnée par son mari, le prince Philippe. Leur arrivée est très attendue.
Ainsi donc, la reine d'Angleterre vient de partir de London Airport. Elle voyage vers Paris. Elle arrivera, vous le savez sans doute, à Orly à midi. Je dis vous le savez sans doute parce que je pense que si vous suivez ces émissions à la télévision, vous vous intéressez beaucoup à cette histoire et vous avez lu sans doute les journaux qui, depuis quelques jours déjà, donnent des feuilletons assez complets sur les préparatifs de ce voyage. Vous savez donc que la reine arrive à midi à Orly. Oui, tous les journaux ce matin sont pleins de portraits de la reine Elisabeth et du duc d'Édimbourg. Et je dois dire que tous les journaux, de quelque opinion qu'ils soient, par exemple, le journal qui donne le moins d'importance au voyage de la reine, a tout de même à Paris 3 colonnes en première page. Et tous les hebdomadaires sont pleins de photos en couleur ou en noir et blanc, des photos pleines d'oriflammes, de drapeaux, d'emblèmes, de slogans, de devises. Et la reine d'Angleterre est toujours en bonne place. Et la reine, d'ailleurs, sur ces journaux, est toujours en tenue de grande reine, bien sûr, avec sa couronne. Et je me demande s'il n'y a pas beaucoup de petits-enfants qui sont déçus aujourd'hui d'avoir vu la reine habillée comme une simple citoyenne montée dans cet avion. Mais je crois pouvoir rassurer les enfants, ils verront la reine au cours des manifestations à Paris dans de somptueux costumes.
Les Français sont excités comme des puces à l'idée de voir la reine. Les commerçants parisiens ont même réalisé des vitrines à son effigie.
On dit même qu'il y a un peu partout dans Paris ce que l'on appelle des Queen's Party, c'est-à-dire des réceptions où les personnes qui ont des postes de télévision ont invité leurs amis à venir voir le grand feuilleton que leur offre la télévision. Il y a même sur tous les parcours que doit suivre la reine d'Angleterre des balcons loués, et j'ai lu ce matin dans un journal une chose assez étonnante, c'est que paraît-il, dans certains balcons qui se trouvent dans le quartier de l'Étoile et des Champs-Élysées, il y a des balcons au 4e étage qui sont loués 5000 francs et des balcons de 1er étage qui sont loués 25 000 francs.
Son avion vient de se poser à l'aéroport d'Orly.
Orly, 8 avril 1957. Le carrosse volant de Sa Majesté la Reine Elisabeth d'Angleterre, deuxième du nom, vient de se poser sur la terre de France. Pour la première fois depuis 19 ans, la souveraine d'un pays ami vient en visite officielle à Paris. Mais ce 8 avril est aussi un anniversaire, l'entente cordiale a tout juste 53 ans. Dès les prémices d'ailleurs, le succès de cette visite, le caractère éminemment populaire de l'accueil, l'enthousiasme spontané que leur apparition va susciter de la part du public sont nettement établis. Le peuple le plus républicain de la terre a retrouvé une âme et des jambes d'enfant pour saluer ce couple digne du plus beau des contes de fées.
Le cortège royal traverse Paris sous le soleil. Et au balcon, sur les trottoirs, des centaines de milliers de personnes saluent Sa Majesté Elisabeth II. Europe numéro 1, bien sûr, est sur le parcours.
Et voici maintenant la salve des 101 coups de canon qui étaient prévus. 101 coups de canon qui vont être tirés par des canons de 75 mm à la cadence, je crois, de 6 coups à la minute. Et voici le cortège, vous entendez les coups de canon, le deuxième. Le cortège passe devant moi, il est précédé par une déesse. Et voici 7 motocyclistes. Et voici maintenant la voiture, voici la reine qui passe devant nous. Comment est-elle habillée? Eh bien, j'ai quelqu'un qui demande, oh là, on jette des mouchoirs. La reine porte un ensemble beige, une toque très claire, presque blanche d'ailleurs, qui lui dégage largement le visage. La voiture de la reine maintenant vient de passer la porte d'Orléans. Elle se dirige vers l'avenue du général Leclerc, qu'elle descend pour l'instant, se dirigeant vers l'église Saint-François-Xavier.
L'événement est si important que la visite est retransmise en direct à la télévision. Des dizaines de caméras balisent le parcours.
Ensuite, les motocyclistes déployés en V. Et à l'intérieur de ce V, les deux voitures dans lesquelles ont pris place Sa Majesté la reine Elisabeth II d'Angleterre et son Altesse, le prince Philippe.
Et quand la reine d'Angleterre descend les Champs-Élysées, une voiture filme le véhicule royal en travelling. C'est une grande première dans l'histoire de la télé française.
Sa Majesté salue de la main ce peuple qui est venu en foule tout au long des Champs-Élysées. Souveraine, elle est le symbole de l'unité du Royaume-Uni et du Commonwealth, elle est la source de l'honneur, la fontaine de la justice, le chef de l'Église anglicane, le chef de la marine et de l'armée. Toute activité, toute dignité, toute justice, tout ordre s'effectue au nom de Sa Majesté en Angleterre.
Parvenue au palais de l'Élysée, la reine Elisabeth II remercie le président de la République, René Coty, dans un français impeccable.
Monsieur le Président, je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Vos paroles nous ont rappelé à tous deux des souvenirs qui nous sont chers. En cette même saison, au printemps de 1948, nous avons eu la joie d'être reçus à Paris à l'occasion de notre toute première visite ensemble au dehors de notre propre pays. La gentillesse, la gaieté de cœur et la générosité étaient alors telles que nous les retrouvons chez vous aujourd'hui. Et nous vous en disons de tout cœur merci. Monsieur le Président, je lève mon verre en votre honneur et je bois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés.
Et ensuite, la reine Elisabeth II d'Angleterre part pour le château de Versailles.
La voiture de la reine décrit une grande courbe. Elle est là, à droite du président Coty. Elle a dans les mains un petit bouquet de fleurs qui lui a été remis tout à l'heure à l'hôtel de ville. Des fleurs aussi sur un chapeau très printanier. La reine va monter le grand escalier de marbre de la reine, justement, le grand escalier des reines de France. Elle va traverser les grands appartements, signer le livre d'or de la ville de Versailles, puis prendre part à un grand banquet dans la Galerie des Glaces.
Le banquet de la Galerie des Glaces est un banquet d'exception. Au menu, un suprême de bécasse grand siècle, servi dans une assiette qui vaut la bagatelle de 100 000 francs. Et le banquet terminé, la reine, qui est jeune, hein, qui a 30 ans, file à l'Opéra Garnier pour assister à une pièce qui s'appelle « Le chevalier et la damoiselle ».
Et à l'Opéra illuminé, un gala fastueux terminait cette première journée du séjour de la souveraine. Depuis longtemps, le grand escalier de l'Opéra, qui est depuis 1874 le témoin des grandes heures parisiennes, n'avait vu un tel déploiement d'uniformes chamarrés, de robes, de décorations et de joyaux, parmi lesquels le diadème de la reine jetait les feux éblouissants de ses 400 diamants. Mais au milieu de cette manifestation mondaine, le plus bel instant devait être l'apparition de la souveraine et du prince Philippe, qu'accueillait l'ovation d'une foule énorme.
Et le lendemain, un rebelote. La reine fait le tour de Paris pour se rendre au Louvre. Et encore une fois, la foule est impressionnante. Et la télé continue de tout retransmettre en direct. Au commentaire, le journaliste Pierre Sabag.
Tandis que la reine s'avance vers nous, vers notre caméra, j'avoue que je résiste très difficilement à la tentation de vous dire, sans doute très mal d'ailleurs, et je m'en excuse surtout auprès de lui, qui regarde certainement ces images en ce moment et qui, par voie de conséquence, hélas pour lui, m'écoute également. Je résiste très difficilement à la tentation de vous dire les derniers vers de ce poème écrit par Sacha Guitry, dédié à la reine et qui se termine ainsi. Pourquoi Paris est-il ému? Pourquoi se sent-il honoré d'un souvenir qu'il sait d'avance inoubliable? Mais parce que pourquoi le taire, vous êtes reine d'Angleterre et privilège inestimable, votre majesté en a l'air. Je crois que toutes les images que nous avons vues depuis avant-hier et celles-ci même en ce moment que nous venons de voir vont confirmer et confirment avec autant de grâce que de majesté ces vers de Sacha Guitry.
Et après la visite du Louvre, retour à table, sauf qu'on frôle l'incident diplomatico-culinaire.
Truite givrée printanière, délices de pintade véronique, barquette de loris, hérisson périgourdin au nid, cœur de laitue, pêche glacée Mireille, Chablis Mouton, le tout arrosé de Chablis Mouton 1952, Château Latour 1934, Chambol Mussigny 1947 et Paul Roger 1943. Il y a d'ailleurs une petite anecdote que l'on pourrait citer à ce propos. Lorsque le protocole britannique a vu qu'il était question de faire manger à la reine des hérissons périgourdins au Nil, il s'est un peu affolé en disant comment on va faire manger des hérissons à la reine. C'est tout de même les Français, je sais bien, nous savons bien que les Français sont des mangeurs de grenouilles, mais de là à devenir des mangeurs de hérissons, c'est tout de même un peu piquant. Et on a dû expliquer que c'est le terme de hérisson périgourdin s'appliquait en réalité à une boule de foie gras hérissée, bien entendu, hérissée de bâtonnets de truffes, blottis, le tout blotti, au cœur d'une brioche, ce qui évidemment a rassuré et a séduit à l'avance tout le monde.
Le troisième et dernier jour de sa visite, la reine d'Angleterre visite le nord de la France, toujours accueillie avec le même engouement.
À Lille, où ils ont tenu à s'arrêter avant de rentrer à Londres, la reine Elisabeth et le prince Philippe ont été reçus à l'hôtel de ville, où on a remis en honneur pour eux une vieille coutume, le vivat flamand. Après cette adoption, la promenade au marché aux fleurs donnait l'occasion aux Lillois de manifester leur amitié à la souveraine et à son mari de la façon la plus pressante. Pour répondre au désir exprimé par Sa Majesté Elisabeth de visiter la plus importante filature d'Europe, la lainière de Roubaix présentait à la reine ses halls d'exposition, ses diverses productions et ses immenses ateliers. Et avec M. Jean Prouveau, c'était une foule de 2500 ouvriers qui souhaitaient bon voyage au couple royal. Ainsi s'achevait sur une vision du monde du travail, la visite royale. Elle s'achevait dans un décor d'aéroport et d'honneur militaire. Dans la mémoire de Paris comme dans celle des populations du Nord, cette visite demeurera un événement à la fois glorieux et charmant.
Cette première visite de la reine Elisabeth II en France est une réussite absolue et les Anglais en sont très surpris. Eh bien, nous qui pensions que ces grenouilles coupaient la tête aux reines et aux rois, la reine n'a jamais été reçue aussi royalement.
L'année 1957.
En 1957, un vieux projet refait surface. La construction d'un tunnel sous-marin qui relierait la France à l'Angleterre. Je dis que c'est un vieux projet parce que il y a déjà eu une tentative. Il y a 77 ans, on a commencé à creuser un tunnel côté anglais. Mais tout s'est arrêté d'un coup. Ordre du ministère des Armées. Au cas où les grenouilles auraient l'idée d'envahir l'Angleterre par le tunnel. Et donc en 57, ce projet ressurgit. Et cette fois, il paraît que c'est du sérieux.
Le fameux tunnel sous la Manche fait reparler de lui. À la Bourse de Londres, ses actions, un peu oubliées depuis 70 ans, connaissent un regain de faveur. Des deux tracés, le plus ancien ou le plus récent, lequel choisira-t-on pour relier à pied sec la France et l'Angleterre? On ne sait. Mais jamais le tunnel, assure-t-on, n'a eu plus de chance de voir le jour. Au fait, n'y a-t-il pas eu un début? Du côté de Douvres, derrière une porte fatiguée, s'ouvre une galerie qui s'enfonce sous la mer. L'eau suinte de la voûte. Sur ce mur, une inscription. Ce tunnel a été commencé en 1880. En 77 ans, il n'a avancé que de 1800 mètres. On ne peut pas dire que le temps a travaillé pour les Anglais.
Côté français, en 1957, on y croit. Le député maire de Gravelines, dans le Nord, prend la tête d'un groupe d'études.
Monsieur le député, quand on parle du tunnel sous la Manche, une grande majorité de personnes croient en une vieille plaisanterie. Pouvez-vous nous dire à quel point cette affaire est sérieuse?
Et en effet, on a coutume de dire que le tunnel sous la Manche, c'est une espèce d'histoire de serpent de mer. Et cependant, depuis quelques années en particulier, les études sont devenues très sérieuses, et il va sans dire que tôt ou tard, la réalisation de cette traversée de la mer du Nord de France en Angleterre et vice-versa va se réaliser.
De l'autre côté de la Manche, côté anglais, on affirme aussi que la construction du tunnel est imminente.
Ici Eric Westphal qui vous parle de Londres. Y aura-t-il ou non un tunnel sous la Manche? C'est une des questions de l'actualité qui intéresse certainement les Français, mais qui passionne les Anglais et les bouleverse aussi quelquefois, parce que chacun sait que la Grande-Bretagne est une île, a toujours été une île et se veut toujours une île. Toute son économie est construite en fonction de sa géographie, son isolement même et sa fierté et sa gloire. Je suis allé poser la question à l'homme le mieux informé pour y répondre, le commandeur Powell, qui est le secrétaire de la commission parlementaire chargée de la question du tunnel. Commandeur Powell, y aura-t-il ou non, à votre avis, un tunnel sous la Manche et quand?
Nous espérons que, à cause de deux raisons qui sont développées récemment, qu'il y a une bonne chance que nous aurons un tunnel sous la Manche avant 10 ans.
Au moment où le commandeur Powell accorde cet entretien à Europe numéro 1, tous les détails techniques, évidemment, ne sont pas encore réglés. Mais on connaît déjà les grandes lignes.
Quelle longueur est-ce qu'on prévoit à ce tunnel?
La longueur, on estime à 30 000 ou 35 000. Les milles anglais.
C'est-à-dire 45 kilomètres foncés à peu près. Et combien est-ce que coûterait la réalisation de ce travail?
On estime que le tunnel ferroviaire coûtera peut-être 100 millions de livres et le tunnel mixte peut-être 250 ou 300 000.
300 milliards de francs, c'est à peu près comme le pipeline qu'on s'apprête à construire entre le golfe Persique et la Méditerranée, en somme.
En France, Louis Armand, le président de la SNCF, fait partie des ardents défenseurs du projet.
D'abord, c'est plus facile de construire des tunnels aujourd'hui qu'autrefois, et nous voulons savoir ce que peuvent donner les techniques modernes pour le creusement du tunnel. D'autre part, et c'est le deuxième facteur, les transports se développent. Les échanges de marchandises, de personnes vont en croissant et il nous semble que maintenant la nécessité d'un nouveau moyen de transport entre la France et l'Angleterre s'impose, ne serait-ce que pour le transport des automobiles où nous plafonnons chaque année et où l'apparition du tunnel doublerait dès le début les transports d'automobiles entre le continent et l'île.
Ce projet de tunnel sous la Manche intervient alors que l'Europe est en train de construire son marché commun. Et évidemment, ce tunnel concrétiserait un nouveau lien entre l'Europe et le Royaume-Uni.
Oui, il y a quelques années, l'Angleterre était contre le projet. Et pensez-vous que le nombre des partisans s'accroisse?
Certainement. Aux partisans traditionnels du tunnel, aux tunnelistes, viennent de s'ajouter les partisans du marché commun, c'est-à-dire les partisans en Angleterre de l'association avec le marché commun, c'est-à-dire à la zone de libre-échange. En effet, ceux qui pensent à une association plus étroite de l'économie britannique avec l'économie continentale demanderaient un tunnel qui permettrait des moyens de transport terrestre qui sont seuls susceptibles d'associer intimement les deux économies, les deux industries.
Le projet de tunnel enthousiasme les politiques, mais comme d'habitude, les Français sont grincheux. Les pêcheurs de Gravelines, par exemple, n'en voient pas du tout l'utilité.
À mon point de vue, ça ne le verra jamais. Pourquoi? Parce que, d'accord, nous, on sera morts. Nous, on sera morts. Mais à mon point de vue, ça n'existera jamais.
Et s'il existait, ça vous plairait d'y passer?
Non.
Non, non. Pourquoi?
Bah, c'est trop, parce que je sortirais trop d'eau pour suivre ma tête.
Non. Bon, et vous, votre opinion? La même chose aussi. Ah donc, pour vous, le tunnel, aucune utilité pour vous personnellement?
Non.
Mais finalement, en octobre 1957, une nouvelle fois, le projet de tunnel sous la Manche est abandonné. Et toujours pour la même raison. La Grande-Bretagne est une île. Elle doit le rester.
I told you, Mama, that you'd be in by 10. Well,
wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, la, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie.
C'était Wake Up Little Susie par le groupe Everly Brothers, numéro 1 au hit parade anglais en 1957.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
1957 est marqué par l'éclosion d'une toute nouvelle génération d'acteurs comiques. D'abord, Louis de Funès. Il a déjà 43 ans. Et en 1957, il quitte les petits rôles de cinéma auxquels il était cantonné pour un premier rôle dans « Comme un cheveu sur la soupe ». Et toujours en 1957, de Funès connaît son premier succès dans « Ni vu ni connu ». Adaptation d'un roman d'Alphonse Allais.
52,
Brouteau.
53,
Monsieur Dubenoît.
Monsieur le maire.
Bonjour.
On a votre sac en papier, monsieur le maire.
54.
Ça m'a paru 54.
Blaireau.
Blaireau. Moi, à côté de Blaireau, à Saint-Germain.
Ah, monsieur le maire, le tirage au sort doit être respecté, sinon le concours est annulé.
Après vous, monsieur le maire.
Un autre acteur comique crève l'écran en 1957. Darry Cole. Le comédien zodotant et bégayant tourne le triporteur. L'histoire d'un jeune rêveur qui se rentanise en triporteur pour assister à la finale de la Coupe de France de football que doit disputer son village.
T'es dedans ?
Si.
N'êtes pas sans savoir que les routes nationales sont interdites aux nomades.
Nomades ? Je suis pas nomade, moi je me présente. Antoine Perralou, je suis supporter du football club de Vaubrel. L'objet de mon voyage, c'est ramener la coupe. Allez, vos bras, vive d'un bec et puis c'est tout. Ah ah, le football, monsieur, le football. Le vrai football.
Oui, on s'en fout de vos histoires, vous allez nous faire le plaisir de prendre une autre route avec cet affreux machin.
Machin, ça, machin, pour amuser. C'est pas malin, ça, c'est un triporteur, ça, c'est. Là, dégage. Et où ça, triporteur? Trois roues, une roue, pas porteur, une deuxième roue, deux, et tri. Voyez-vous, tri, trois roues, triporteur. Trois, je tri, mon porteur, tri, trois roues. Hein, voilà. Allez, poussez-vous, dégagez-vous un peu là. Oula. Eh ben dites, vous faites votre poids comme la sardine. Fais-lui. Bougez pas. Voilà. Et ça, c'est porteur. Et où ça porte? Ça, c'est le porteur. On porte les porteurs. C'est le modèle classique du genre. C'est fait.
Et puis, toujours en 1957, un duo comique se révèle au cinéma après avoir triomphé au théâtre. Jean Poiret et Michel Serrault, qui sont les vedettes du film Assassin et voleur.
Vous arrivez très bien. Je ne dirais pas que je vous attendais, mais presque.
C'est moi?
Oui. Vous ou un autre qui aurait été de la même espèce que vous, vous allez me comprendre.
Mais oh là!
Non, non. N'ayez pas peur, il ne vise que moi. Je vais me suicider dans 5 ou 10 minutes.
Oh.
Extraordinaire coïncidence. Cette décision de m'en aller, je l'ai prise il y a quelques heures, mais ce n'est pas sans une certaine répugnance que j'allais mettre ce projet à exécution. Votre miraculeuse visite va simplifier toute chose. Vous êtes un assassin, n'est-ce pas?
Oui. Enfin, il ne faut rien exagérer, je suis plutôt voleur. Seulement, il faut bien le dire, c'est une profession qui vous met quelquefois dans l'obligation de...
De vous défendre.
Dame, c'est qu'on peut se trouver tout à coup
en face de gens brutaux qui ne sont pas disposés à se laisser voler sans opposer tout de même une certaine résistance.
Vous avez dit le mot.
Le film Assassin et voleur est signé Sacha Guitry. À la sortie du film, Guitry fête ses 72 ans. Et pour l'occasion, l'émission 36 Chandelles lui consacre une soirée spéciale. Une soirée qui est marquée par un petit événement. Une petite fille de 10 ans vient devant lui lire un poème. Elle s'appelle Minou Drouet. Et à l'époque, c'est une vedette. Elle est connue depuis qu'elle a publié un recueil de poèmes qui s'appelle « Arbre, mon ami ».
Donc, avec toute sa fraîcheur et sa gentillesse, Minou Drouet, qui va vous souhaiter vos 72 ans. Voici donc mademoiselle Minou Drouet, qui est toute heureuse de vous dire.
Tout mon cœur salue Sacha Guitry.
Alors voilà, écoutez, je m'excuse parce que vous avez l'air tout intimidé. Alors, vous n'étiez jamais venu comme ça? Alors voilà, il vous regarde en ce moment. Je dois vous dire que je lui ai téléphoné samedi matin et que samedi soir, en quelques instants, vous avez écrit ce petit compliment.
Oui.
Alors, vous voulez bien lui lire?
Oui.
Alors, elle l'a écrit avec tout son cœur dans la journée même. Alors, vous allez expliquer pourquoi vous connaissez M. Sacha Guitry et pourquoi vous êtes content de lui souhaiter sa fête et son anniversaire. Oui. Alors, parlez-lui bien fort.
Parce que, pour moi, vous représentez quelque chose d'immense. Je ne vous traiterai ni de monsieur, ni de maître. Je dis monsieur à mon laitier et maître. Ça sent le tableau noir et la fable de la fontaine. Je vous dis, mon grand ami, comme je ne l'ai dit qu'à l'arbre, au nuage, au silence, à ce qui domine et console. Un ami, c'est un être de qui on a tant reçu qu'on se tourmente de ne pouvoir assez l'en remercier. Et c'est pour cela que je viens vous parler ce soir, car vous ne savez pas ce que je vous dois.
4 mois plus tard, Sacha Guitry est emporté par un cancer.
En cette fin d'après-midi, devant le 18 de l'avenue Élysée-Reclus, la maison où vécut le maître, où il repose maintenant, une foule silencieuse et émue attend. Madame, pourquoi attendez-vous ici?
Je voulais attendre pour voir si on pouvait rentrer.
Vous auriez voulu vous recueillir devant le cœur de Sacha Guitry?
C'est ça, oui. J'ai été en correspondance une fois avec lui. Vous voyez, j'ai une lettre.
Oui.
Et alors?
Et vous l'avez connu personnellement?
Ah non, pas personnellement. Je lui avais écrit pour lui dire combien j'avais de l'admiration pour lui parce que nous avions vu depuis son plus jeune âge, ça me fait la peine.
Vous l'avez connu depuis son plus jeune âge?
Oui, évidemment, depuis avant Berkoumsoum. Bon, c'est ça, remonte loin.
Il y a combien de temps que vous attendez ici?
Oh, ça fait bien une heure maintenant, j'estime.
Et vous avez demandé à entrer?
Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, voyez, j'ai une lettre de M. Sacha Guitry. Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Il m'a dit oui dans un moment, et puis, ça s'est arrêté là.
Mais finalement, quelques minutes plus tard, on laisse entrer la dame. Et derrière elle, tout un tas de journalistes, dont celui d'Europe numéro 1.
Moi, dans la chambre de Sacha Guitry, dans la chambre où il a vécu, où il a souffert, dans la chambre où il repose maintenant, il est étendu sur un grand lit blanc, entouré de roses. Il porte l'habit noir, et sur la poitrine, la grande croix de commandeur de la Légion d'honneur. Sur la poitrine également, un petit crucifix de cuivre a été placé par la dame Marconi.
À cette occasion, le journaliste d'Europe numéro 1 rencontre le scénariste Albert Wilmets, qui est un ami de Sacha Guitry.
Monsieur Wilmets, je viens de voir Sacha Guitry sur son lit de mort. Est-ce qu'il avait réglé lui-même les détails de sa mort?
Bon, jamais Sacha Guitry n'avait réglé le détail de sa mort, car Sacha était le plus grand auteur dramatique, j'estime, vivant. Il était vivant et jamais l'idée de la mort ne lui était venu. Il savait bien que, comme nous tous, cela finirait de cette triste façon. Je tiens à vous répondre que 20 fois je lui ai parlé de cela, jamais il ne m'en a parlé, une seule fois.
Et toute la journée, c'est un défilé dans l'appartement de Sacha Guitry. Des amis, des actrices, des acteurs. Noël Roquevert, par exemple, très ému.
J'ai beaucoup de peine, je monte le voir, mais déjà dans mon cœur, j'ai énormément de chagrin. C'était un homme admirable, irremplaçable. Dans son cœur, dans son génie, dans son esprit, je maintiens irremplaçable.
3 jours après la mort de Guitry, 3000 personnes sont présentes devant son hôtel particulier pour lui rendre un dernier hommage.
Il est 10h30 et le corps vient d'être sorti de l'hôtel particulier pour être déposé devant le buste de Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry, un buste qui se dresse à l'angle de la rue Élysée-Reclus.
Je voudrais que vous sentiez combien nous sommes désemparés de l'avoir perdu.
C'est Maurice Ténac qui prononce l'oraison funèbre pour tous les interprètes de Sacha Guitry. Des interprètes qui sont des centaines et des centaines, et dont plusieurs sont là aujourd'hui.
De ne pas être comédien.
Vous aviez tous les dons, et le plus précieux de tous, la fantaisie.
Marcel Achard vient à son tour.
De mesure et d'invention loufoque,
prononcer une oraison funèbre au nom de tous les auteurs.
De lucidité, de folie. Vous citiez souvent une phrase de votre père. Quand on a l'honneur d'être vivant, eh bien, mon cher ami, la vie que vous avez donnée à tant de personnages, aujourd'hui, ceux-ci vous la rendent. Sacha, vous avez l'honneur d'être vivant.
Parmi la foule, il y a plusieurs des acteurs qui ont interprété les pièces et les films de Sacha Guitry. Et dans un coin, derrière un arbre, Michel Simon qui pleure.
Sacha, c'était mon ami. Et je n'ai pas beaucoup d'amis. C'était peut-être mon seul ami. Je ne peux rien dire d'autre.
Sur le linceul de Sacha Guitry, on a inscrit, comme il l'avait demandé, prière de ne pas déranger. Sacha Guitry laisse une œuvre immense, 1400 scénarios de films et une source quasi intarissable de bons mots. Cela, par exemple, dans l'une de ses œuvres les plus célèbres, Faisons un rêve.
Ah oui, elles sont assommantes. C'est même inouï de penser qu'on peut adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. Oh, être marié. Ça doit être quelque chose de terrible, ça, hein? D'ailleurs, c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre, je sais pas moi, un Chinois ou un Portugais. Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais, c'est possible. Et si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je dirais, non, mon général. Naturellement, à condition que ce soit un général qui m'ait dit ça.
1957, On de la traconte sur Europe 1.
En 1957, Europe numéro 1 repère les jeunes journalistes débrouillards grâce à ce qu'on appelle la coupe des reporters. Et le vainqueur de l'édition 1957 est un baroudeur de 21 ans qui a étudié à Washington, qui a bourlingué pendant 2 ans à travers tous les États-Unis et qui s'appelle Philippe Labro. Il deviendra un grand nom du journalisme en France. Et dans nos vieux enregistrements, j'ai trouvé sur une étagère l'un des tout premiers reportages de Philippe Labro. Il n'a jamais été dépoussiéré depuis septembre 57. Il s'agit du déraillement du train Paris-Nîmes.
Je vous parle de Nozières-Brignon. Je suis à 3 mètres seulement des wagons du Paris-Nîmes et de la voie ferrée où s'est produite hier, à 12h30, la catastrophe du Paris-Nîmes. En ce moment même, vous pouvez entendre le bruit d'un chalumeau. Au chalumeau, les ouvriers découpent les wagons déchiquetés, éventrés, qui encombrent la voie, pour pouvoir ensuite les dégager. Un peu plus loin, il y a une énorme grue, une machine grue noire, qui va soulever lentement les 4 wagons qui restent, de même que la locomotive qui est encore là. Il y a bien 1200 personnes qui travaillent sur ces rails. Il y a bien 1200 personnes qui travaillent sur ces rails et à 500 mètres seulement le long de la route, il y a 50 voitures, 500 personnes qui regardent, des habitants, des touristes, des curieux, qui regardent et qui se taisent. J'ai fait un saut à Boucoiron où j'ai trouvé Madame Garcia qui est la première personne à avoir vu le déraillement. C'est bien cela. Vous oui, étiez au poste de garde-barrière.
Oui, monsieur. J'étais à 12h25, avant le poste de garde-barrière. J'avais pris mon service il y a environ 10 minutes, lorsque j'ai constaté que le train avait quelques minutes de retard. À ce moment-là, je l'ai vu surgir à une grande vitesse. Et j'ai eu peur parce que je savais qu'il devait ralentir à 30 km à l'heure. Et il n'a pas ralenti. Et il a franchi environ à 100 km à l'heure le passage. Et s'est engagé. Et à ce moment-là, je n'ai vu qu'une grande poussière et les wagons se sont couchés et un faible bruit et c'est tout.
Le bilan s'annonce très lourd. On parle de 29 morts et une quarantaine de blessés. Et donc, le journaliste d'Europe numéro 1, Philippe Labro, recueille des témoignages de victimes à l'hôpital de Nîmes.
Dans une chambre de l'hôpital, madame
Deleuze, j'étais assise dans un couloir de première. Un wagon mixte, première et seconde, j'avais trouvé une place assise dans le couloir près des WC, près de la porte de sortie. Je venais de faire téter mon bébé à la gare de Saint-Gilles de Boitmas. Elle était sur mes genoux. J'ai aperçu le passage de Nozières le restaurant La Cigale, avec des voitures arrêtées devant. Et puis alors, tout d'un coup, j'ai senti l'aiguillage, comme un mauvais aiguillage. Alors, le train qui bougeait, mon mari a crié, « Mon Dieu, nous déraillons. » Et heureusement, j'avais bloqué la porte du couloir avec ma valise. J'ai été éjectée de mon siège et j'ai roulé avec ma petite. Je voyais les valises qui défilaient devant moi. Et puis après, ça s'est arrêté, il y a eu le choc. Je me suis trouvée sur un compartiment, sur le premier compartiment, sur la porte du compartiment qui s'était refermée. Et la vitre était au-dessus de moi. J'ai pu dégager mon bébé. J'ai crié mon bébé, prenez mon bébé. Une dame qui était sur le train me l'a vite attrapée et l'a redonnée à une autre dame qui était en bas. Et ensuite, j'ai entendu des voix et des coups au-dessous de moi. C'était les gens qui étaient coincés dans le compartiment qui me criaient « Ouvrez, ouvrez la portière ». Et au milieu des débris de verre, j'ai pu ouvrir la portière. Mais je retournais toujours vers mon mari qui me disait « Dégage-moi, dégage-moi » et je ne pouvais rien faire pour lui.
Finalement, le mari sera dégagé au chalumeau par les secours et le bébé sortira avec des égratignures. Mais Philippe Labreau, toujours sur place, est aussi le témoin d'une histoire terrible.
Par exemple, l'histoire de ce père de famille sorti indemne de l'accident et qui a participé aussitôt au premier secours. Un des premiers corps qu'il devait dégager était celui de sa femme et puis celui de sa petite fille. Alors, il a pleuré, il a dit « J'espère au moins qu'il me reste son petit enfant, mais son enfant aussi, un petit garçon, était mort. » Ici, Philippe Labreau nous a parlé de Nîmes, Europe numéro 1.
En cette année 1957, Europe numéro 1 matraque un titre qui va être le succès de l'année. Bambino, par Dalida.
Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores,
bambino,
et qu'elle a des jolis yeux,
bambino,
mais tu es trop jeune encore,
bambino,
pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino, bambino,
tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, bambino,
va plutôt jouer au ballon,
bambino, bambino,
comme font tous les gamins.
Bambino! En 1957, c'est le premier succès de Dalida. Plus de 300 000 disques vendus. Et cette chanson lance sa carrière.
Europe 1.
Et ben voilà. À mes côtés aujourd'hui, il y avait Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vasseau. La suite de notre visite privée de l'année 1957 dans le 4e épisode.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.